27. La valeur dans la croyance aux passions surhumaines. L'institution du mariage maintient opiniâtrement la croyance que l'amour, bien qu'il soit une passion, est cependant susceptible de durer en tant que passion. La croyance que l'amour durable, l'amour à vie, peut être considéré comme la règle. Par cette ténacité d'une noble croyance, maintenue malgré des réfutations si fréquentes qu'elles sont presque la règle et qui en font par conséquent une pia fraus, l'institution du mariage a conféré à l'amour une noblesse supérieure. Toutes les institutions qui ont concédé à une passion la croyance à la durée de celle-ci et la responsabilité de la durée, malgré l'essence même de la passion, ont procuré à cette passion un renouveau. Et celui qui dès lors est pris d'une semblable passion ne se croit plus, comme jadis, abaissé ou mis en danger à cause d'elle, mais au contraire, élevé par elle devant lui-même et devant ses semblables. Que l'on songe aux institutions et aux coutumes qui ont fait de l'abandon fougueux d'un moment une fidélité éternelle, du plaisir de la colère l'éternelle vengeance, du désespoir le deuil éternel, de la parole soudaine et unique l'éternel engagement. Par de telles transformations, beaucoup d'hypocrisie et de mensonges s'est chaque fois introduit dans le monde, chaque fois aussi, et à ce prix seulement, une conception surhumaine qui élève l'homme. 28. La disposition d'esprit comme argument. D'où vient la joyeuse résolution qui s'empare de nous devant l'action? C'est là une question qui a beaucoup préoccupé les hommes. La réponse la plus ancienne, qui demeure toujours courante, c'est qu'il faut en faire remonter la cause à Dieu qui nous donne à entendre par là qu'il approuve notre décision. Lorsque l'on interrogeait autrefois les oracles, on voulait rentrer chez soi en rapportant cette joyeuse résolution. Et chacun répondait au doute qui lui venait lorsque se présentaient à son âme plusieurs actions possibles. Je ferai la chose qui sera accompagnée d'un pareil sentiment. On ne se décidait donc pas pour ce qu'il y avait de plus raisonnable, mais pour le projet dont l'image rendait l'âme courageuse et pleine d'espérance. La bonne disposition était placée comme argument sur la balance et pesait plus lourd que la raison. Puisque la disposition d'esprit était interprétée d'une façon superstitieuse, comme l'effet d'un dieu qui promet la réussite et qui veut ainsi faire parler, à sa raison, le langage de la sagesse supérieure. Or, considérez les conséquences d'un pareil préjugé. Lorsque les hommes rusés et avides de puissance s'en servaient, lorsqu'ils s'en servent encore, disposaient favorablement les esprits. Avec cela, on peut remplacer tous les arguments et vaincre toutes les objections. 29. Les comédiens de la vertu et du péché. Parmi les hommes de l'Antiquité qui devinrent célèbres par leur vertu, il y en eut, semble-t-il, un nombre considérable qui jouaient la comédie devant eux-mêmes. Ce sont surtout des Grecs qui, étant des comédiens invétérés, ont dû simuler ainsi tout à fait inconsciemment et trouver qu'il était bon de simuler. Du reste, chacun se trouvait en lutte pour sa vertu avec la vertu d'un autre ou de tous les autres. Comment n'aurait-on pas rassemblé tous les artifices pour faire montre de ses vertus? Avant tout devant soi-même, ne fût-ce que pour en prendre l'habitude. À quoi servait une vertu que l'on ne pouvait montrer ou qui ne s'entendait pas à se montrer elle-même? Le christianisme imposa un frein à ces comédiens de la vertu. Il inventa l'usage d'étaler ses péchés d'une façon répugnante, d'en faire parade. Il amena dans le monde l'état de péché mensonger. Jusqu'à nos jours, il est considéré comme étant de bon ton parmi les bons chrétiens.